Salut les joueuses, salut les joueurs. Nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Caducée et je suis accompagnée d'Élodie. Bonjour Élodie.
Salut Caducée.
Tout va toujours bien?
Tout va toujours bien.
L'ambiance est encore au calme sur le festival aujourd'hui?
Ah oui, là on est vraiment bien. On voit toujours la mer. C'est parfait.
Et aujourd'hui, nous accueillons Pauline Détras.
Bonjour Caducée.
Illustratrice. Bonjour Pauline.
Bonjour Élodie.
Salut Pauline.
On va commencer par notre série de questions fil rouge, si tu es d'accord.
Très bien.
Sous la forme d'un petit portrait chinois. Alors la première question, Élodie, je te laisse commencer.
Et bah, si tu étais une mécanique de jeu, ça serait laquelle?
Oh, un party game. Un party game.
Aucune hésitation.
Non.
Si tu étais un thème de jeu.
Jeu immersif.
Si tu étais un élément de jeu.
Très bonne question. Je serais un meeple, mais un meeple un peu à part.
Et enfin, si tu étais un jeu.
Oh!
Elle est plus difficile, celle-là.
Ouais, parce que là, c'est faut séparer l'affect que tu as dans le jeu. Et si tu étais un jeu... Oh, elle n'est pas évidente, ouais. Bonne question. Si j'étais un jeu, un truc un peu fou, un peu créatif, je serais un Dixit.
Merci, Pauline. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas?
Bien sûr, alors je suis Pauline Détras, donc je suis illustratrice ludique officiellement depuis 2015, où j'avais illustré mon premier jeu de société moderne, qui était 10 Minutes to Kill chez la boîte de jeux. Et depuis, je dois avoir une trentaine de jeux à mon actif, donc j'ai fait des études de dessin à Lyon. Et depuis, voilà, le milieu ludique est venu un peu par hasard. En général, c'est avec des amis joueurs qui m'ont introduit au milieu du jeu, pardon. Et de fil en aiguille, on a commencé à fréquenter les salons et à s'intéresser aux jeux. Et voilà, et depuis, premier jeu, puis deuxième jeu, puis troisième jeu. Et maintenant, ça va, je commence à en avoir une petite ludothèque.
Comment ça s'est passé justement pour 10 Minutes to Kill?
Pour 10 Minutes to Kill, en gros, j'avais illustré un prototype qui était présenté sur donc, différents salons de jeux. Et ce prototype est tombé sous l'œil de Benoît Vanier et qui m'a dit bah, « Écoute, je cherche une illustratrice. » Eux, ils étaient vraiment tout débutants au début. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient un jeu qui s'appelait Invasion à l'époque, qui n'avait pas forcément bien marché. Et 10 Minutes to Kill, c'était le premier jeu qu'ils voulaient lancer en Kickstarter. Donc moi, j'ai accepté parce que j'étais super contente de pouvoir enfin illustrer mon vrai jeu. Enfin, mon vrai jeu, un vrai jeu de société moderne. Et donc, j'ai commencé à faire les illustrations, la couverture. Ils ont lancé la campagne qui a immédiatement marché. Donc, en 24 heures, je crois, ça a été banqué. Et j'ai dû illustrer tous les stretch goals du jour au lendemain. Donc ça a été vraiment très, très intensif. Je me rappelle, j'étais pendant mes vacances, là où il n'y avait pas de réseau, en pleine montagne, et je devais illustrer les illustrations des personnages supplémentaires un peu... ouais, voilà, la veille pour le lendemain. Et par contre, c'était une super expérience parce que du coup, l'équipe de la boîte de jeu, ça se passait très bien. Ça me mettait vraiment dans le bain de ce qui était un jeu et en plus dans le modèle d'un Kickstarter qui est encore différent. Et voilà, ça a été ma première mission en tant qu'illustratrice ludique.
Il y a eu aussi Acropolis.
Oui, hein, Acropolis est venu bien plus tard pour le coup.
Est-ce que le fait d'illustrer un jeu qui a été donc lauréat de l'As d'Or t'a apporté aussi plus de travail derrière?
Alors, pas tant plus de travail, mais par contre, la renommée, c'est dans le sens où quand on est illustrateur de jeux, bah, on illustre beaucoup de choses, mais pas forcément qui ont des succès ou des choses qui peuvent être passées sous des radars. Donc Acropolis, c'était plutôt la caution, pardon, tout le monde connaît ce jeu. Et donc, quand je dis, je suis illustratrice ludique, ah bah, qu'est-ce que tu as illustré? Acropolis, ah ouais. C'est toujours, ah oui, ok, d'accord. Donc c'est plus, oui, ce côté, c'est pas forcément notoriété, mais en tout cas, maintenant, mon nom est associé à un jeu connu, donc c'est effectivement plus facile de se vendre aussi.
Et puis d'une manière générale, moi j'ai l'impression que l'illustration est de plus en plus mise en avant. On essaye de pas mettre de côté l'illustrateur, l'illustratrice des jeux. C'est moins caché qu'avant.
Oui, alors voilà. Il y a beaucoup d'efforts de fait effectivement sur ce point-là. Je pense que oui, depuis 2015, donc ça commence à faire 10 ans, c'est en train de bien évoluer. C'est sûr que le travail des illustrateurs est beaucoup plus reconnu aussi. Ça dépend aussi des maisons d'édition avec qui on travaille. Chacun a sa politique différente. Mais oui, c'est sûr que ce n'est pas un milieu à négliger puisque c'est la première vitrine, l'illustration d'un jeu. Donc, c'est très important de la mettre en avant et du coup de travailler aussi dans une bonne alchimie entre éditeurs, illustrateurs, auteurs. Pour moi, c'est ce qui fait qu'un jeu va marcher ou pas s'il y a ce côté relation humaine de confiance à ce milieu-là.
Et oui, tu avais fait aussi Au creux de ta main. Oui. Est-ce que tu l'as pris comme un cadeau, ce jeu-là? Parce que c'est quand même un jeu basé essentiellement... Enfin, quasiment toute la mécanique est basée sur l'illustration.
Alors, ce jeu, j'ai adoré le faire. Alors déjà, on était, je crois, 5 illustrateurs dessus. Et malheureusement, il a eu vraiment un mauvais timing puisqu'il est sorti pendant le Covid. Et c'est un jeu qui est basé sur le tactile. Pas de bol, mais c'est la vie, malheureusement. Et oui, alors pour ça, c'était vraiment... Ouais, j'étais très heureuse de faire ce jeu-là parce que, en plus, c'est un jeu qui travaille vraiment sur une certaine sensibilité. C'est quelque chose qui est très poétique, très doux. Et moi, c'est vraiment ces mécaniques, en tout cas, cette approche qui me plaît quand j'illustre un jeu. C'est toujours apporter une certaine magie, une certaine poésie, une certaine sensibilité, du coup, sur les cartes. Et là, ça a été le cas. Donc, j'ai en plus pu choisir les cartes à illustrer, parce que donc il y avait tout un brief de départ, un fichier Excel avec les cartes, le descriptif, etc. Donc oui, j'ai pu bien choisir et du coup proposer quelque chose de plus proche de ce que j'aimais faire sur certains jeux où par contre ça peut être du travail vraiment de commande qui n'est pas forcément proche de notre univers personnel, en tout cas de notre affect. Ouais, Au creux de ta main, c'était l'inverse. C'était vraiment que des choses très douces à illustrer, très, très chouettes.
Mais il est incroyable, ce jeu. Il est tellement magnifique.
Ouais,
tellement...
Ouais, je suis très triste qu'il n'ait pas eu le succès qu'il méritait. Parce que quand on me l'a pitché, je suis c'est génial. Les parties qu'on faisait étaient chouettes. En plus, quand il est sorti, ouais, il y avait quand même quelque chose qui se passait sur les salons. Le public était vraiment... c'était un moment doux, vraiment. Ouais. Et ouais, je suis triste qu'il ait pas, qu'il ait bénéficié d'une sale période.
Il y a eu aussi Cardzel et Differentio, qui sont deux jeux qui proposent de se baser uniquement sur l'illustration. Là, moi, j'avais une question par rapport à ça, surtout par rapport au thème. Est-ce que tu as été libre de choisir le thème pour ces deux jeux?
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu as été dirigée?
Non, tout à fait. Et c'est marrant d'ailleurs que tu parles de ces jeux-là en parallèle, parce qu'ils ont vraiment une histoire commune. C'est déjà ces deux jeux qui ont été réalisés par des boîtes qui à l'époque étaient un peu plus petites que des grands groupes en fait. Donc c'est sûr qu'encore une fois, il y avait une relation humaine au jeu qui était complètement différente. Differentio, donc c'est chez Kif Edition. Et ça, c'était une très bonne expérience parce que, en plus, c'était une illustration réalisée à quatre mains avec Nayad et donc Pyro aussi qui est illustrateur et éditeur. Donc là, il y avait vraiment ce relationnel de c'est un illustrateur qui me demande de faire des illustrations, avec en plus quelqu'un de très talentueux. Nayad, ça avait vraiment été un de mes... Alors, c'est pas mentor, parce que lui, il ne le savait pas du tout, mais quand on entend le jeu qu'on est jeune illustratrice, forcément, on se réfère au grand nom. Et Nayad, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve à avoir sur le fait qu'il est très talentueux. Donc, quand Pierrot m'a appelé, j'ai été très pro au téléphone. Oui, ça peut m'intéresser. Et puis, tu raccroches, j'étais...
J'imagine bien.
Et ce travail-là était très chouette. Alors, au début, ça a été un peu sur les chapeaux de roue parce que je jonglais aussi. Je fais beaucoup d'animation à côté, motion design. Et je travaillais avec une agence qui avait pris 3 semaines de retard. Donc, moi, ça m'a impacté de 3 semaines sur le planning que j'avais pour ce jeu-là. Et vu qu'en plus on travaillait à quatre mains, c'est sûr qu'il y a eu au début un peu de « Ah oui, mais en fait, tu m'as dit que tu commençais... » Et je suis désolée, là, ça ne relève pas de moi.
Eh oui.
Donc le début a été un peu compliqué, mais par contre, une fois que le projet s'est lancé, que, encore une fois, vu que c'est des gens très humains, ouais, il y a eu des vrais soucis et tout le monde a bien compris, ça a été très chouette parce qu'il y avait une réponse entre la palette de Nayad, ma palette. On discutait beaucoup sur la complémentarité des couleurs, comment le jeu pouvait être intégré et comment deux styles pouvaient aussi cohabiter pour rendre une illustration cohérente à la fin. Et oui, là, il y avait vraiment un thème complètement libre, revenir à ta question initiale. Moi, à l'époque, mon frère habitait au Vietnam, donc j'y étais allée, et j'aime beaucoup travailler sur des sujets qui me touchent, en tout cas, je peux apporter une sensibilité là-dessus. Donc, mon univers à moi était vraiment basé sur les marchés flottants du Vietnam que j'avais vus de mes propres yeux. Donc, j'avais beaucoup de documentation aussi personnelle là-dessus. Je trouve que c'est important aussi, quand on crée une illustration, de mettre vraiment un affect, parce que le travail de recherche, d'archives, etc., c'est bien. Mais à partir du moment où on met un peu de sentiment en plus de ce qu'on illustre, je trouve que ça apporte une plus-value énorme à l'illustration. Et voilà. Et du coup, en parallèle, lui, Nayavd, avait illustré quelque chose de beaucoup plus aride. Donc ça se répondait, ça faisait vraiment sens sur l'écho d'un côté du plateau à l'autre côté du plateau. Et je pense que ça a assez bien marché. Voilà. Et pour Kartzol, pareil, c'est chez les Jeux au plat. Donc, super maison d'édition, très humaine aussi, des gens adorables. Et là, j'avais proposé du coup l'univers de Brocéliande parce que moi, je voulais revisiter le bestiaire arthurien qui était très méconnu.
D'accord.
Et surtout, pas tomber dans le cliché de c'est Kaamelott et du coup, toutes les références à Kaamelott. Ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé au début, les références à pop culture. Je suis c'est bien gentil. On en est inondé. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait très doudou, donc qui rassure. Donc forcément, voilà, il y a un côté « Ah, je reconnais, j'ai l'affect », donc ça peut fonctionner en termes de, on va dire, de choix marketing. Mais je leur ai dit, en fait, à force de faire ça, on appauvrit en fait, le langage de l'image. Donc, je leur ai dit « Je veux bien faire ça, mais de ma propre vision. » Et ils ont tout de suite très vite compris que non, je ne vais pas faire le petit easter egg qui fait plaisir à tout le monde. C'est vraiment une poésie que j'ai envie aussi de faire découvrir aux gens. Et même s'ils ne comprennent pas pourquoi un espèce d'énorme sanglier est là en plein milieu, c'est pas grave.
C'est qu'il y a des animaux très chimériques.
Voilà, exactement. Et c'est vraiment
ça
des
interroge,
animaux.
En tout cas.
Voilà, ça, c'est vraiment tout le bestiaire arthurien. Et du coup, les Géoplats avaient fait un petit lexique sur leur site des illustrations et à quoi ça renvoyait pour les gens qui s'y intéressaient. Et je trouvais ça très chouette. Et en plus, cette illustration, elle était particulière parce que c'est une illustration qui se répète à l'infini. Et la magie du jeu, c'est que quand on fait le puzzle, enfin le Kartzol, on n'aura jamais la même illustration parce que ça va construire une seule partie d'une illustration qui se répète à l'infini. Donc on a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait le jeu, c'est une autre illustration qu'on construit.
Ça, techniquement, ça ne devait pas être évident à...
C'est ce que je préfère faire dans les jeux, c'est quand il y a un challenge technique. J'adore ça. C'est réfléchir à tout le processus en amont. Comment réaliser du coup l'illustration, comment elle est construite. Et en plus, celui-là, je l'avais uniquement illustré sur Illustrator. D'habitude, c'est plutôt Photoshop que j'utilise. Et donc, voilà, il y avait ce côté vectoriel, il y avait le côté isométrique aussi, comme j'avais pu faire sur Dicycle Race, qui à l'époque était vraiment une vue que j'aimais, parce que c'est vraiment l'architecture infinie, avec des paysages infinis, et c'était aussi pas mal à la mode il y a environ une dizaine d'années, où c'était vraiment... Le flat design était vraiment très à la mode, donc c'était un peu dans cette lignée-là. Mais pour autant, voilà, j'avais quand même pas mal texturé l'image pour pas que ce soit quelque chose de trop froid, justement, parce qu'Illustrator peut avoir un côté très froid. Je voulais pas tomber sur ce piège-là, donc j'avais rajouté du grain, des choses un peu matérées. Moi, j'expérimente beaucoup quand j'illustre, j'aime beaucoup ça. Comme tu disais, Elodie, sur la technique déjà de préparation de l'image, et après sur le style pur graphique.
On va continuer un petit peu à dérouler ce que tu as sur les projets sur lesquels tu as travaillé. Donc, tu avais travaillé aussi sur le rallye des vers de terre. Tu as fait la couverture, c'est ça?
J'ai fait uniquement la couverture. Alors, celui-là, pareil, c'est un peu un ovni. C'est marrant que tu m'en reparles. C'est un peu les projets qu'on oublie un peu parce que déjà, c'est de la couverture. Et c'est toujours un peu touchy quand on t'approche en disant il faut que tu fasses une partie de l'illustration. Il y a les illustrateurs qui ont déjà travaillé dessus. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas des choses que j'accepterais parce que, bah, pareil, quand on est jeune illustrateur, on se dit bah, c'est un jeu de plus. Donc, c'est toujours bien. Mais voilà, j'avais vraiment aussi ces premiers doutes un peu. Bah, ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne faites pas une refonte entière ? Et il y avait ce côté, bah, quand on ouvre la boîte, ce n'est plus les mêmes illustrations. Donc, il y a un côté un peu déceptif aussi, public qui peut arriver. Et aussi, à l'inverse, des gens qui pensent que j'ai tout fait. Et que ce soit pour la bonne ou mauvaise raison, mais voilà, en tant qu'artiste, même si artisan, on va dire, on a toujours un peu, bah, ouais, mais c'est aussi, on essaie de respecter bien sûr ce qui a été déjà fait, mais du coup, nous, ça nous questionne sur est-ce que je suis prise aussi pour mon artisanat ou mon travail d'auteur, parce que ça reste auteur-autrice. Ça reste quand même quelque chose de personnel qu'on produit. Donc voilà, ces projets-là, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais un peu plus de mal à les accepter.
Et tu as aussi illustré des jeux beaucoup plus abstraits, voire enfin, graphiques. Nous, on avait noté Quickshot, oui. Playball aussi, qui ressortent un petit peu du lot quand on regarde l'ensemble des jeux que tu as illustrés.
Oui, alors Quickshot, je pense qu'il est vraiment cet hybride entre l'illustration et le graphisme. C'est un jeu qui a beaucoup plu. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bons retours dessus. Et je pense qu'il a plu parce qu'il y avait un vrai travail de simplification. C'est-à-dire que quand on construit une image, c'est jusqu'à où on peut la simplifier pour une bonne lecture. Là aussi, il y avait toute une réflexion en amont parce que de base, donc, c'était une localisation d'un autre jeu. Et les illustrations du genre de base, c'était vraiment des archétypes de personnages de manga, etc. Et la demande de Bertrand donc chez Banquise, c'était ne pas tomber justement dans le cliché, dans le genre. C'était quelque chose qui était très clivant pour lui. Et je lui dis, ben, dans ce cas-là, on reste quand même sur des pouvoirs de personnages. Je te propose de faire juste un focus sur les mains, parce que du coup, ça reste quelque chose de très neutre et en même temps figuratif. Il avait bien aimé l'idée. Et après, ça a été un petit travail d'ajustement sur ben, justement à quel point on rend la carte abstraite et figurative à la fois. Donc ça, c'était vraiment un super projet aussi en termes de réflexion graphique. Il y a eu pas mal d'allers-retours, mais très constructif pour le coup. Et c'est vrai que je pense que le résultat a pas mal plu parce qu'il est assez universel pour le coup.
Et là, dernièrement, tu as aussi été illustratrice de la nouvelle version de King Domino.
Oui.
Comment on fait ce travail de refonte graphique d'un jeu, surtout d'un tel jeu ?
Le fil rouge est incroyable parce qu'on parlait justement du respect des travaux des illustrateurs en amont. Et quand ils m'ont contacté, ils ont aussi eu la démarche de redemander ce travail donc à Cyril, qui avait fait la première version. Et je crois que, aussi pour des emplois du temps, lui ne pouvait pas repartir sur ce projet-là. J'ai encore une fois très peu d'infos là-dessus, donc je ne sais pas. Enfin, voilà, j'ai que mon prisme à moi. Mais voilà, et moi j'avais un point d'honneur quand même à respecter tout ce qu'il avait fait, ne pas dénaturer le jeu, parce que c'était pas le but du tout, et de respecter aussi encore une fois la poésie, l'humour qu'il avait mis dans les tuiles, parce qu'il y avait beaucoup aussi de petites références très sympathiques, c'est ce qui rendait le jeu très attachant d'ailleurs. Donc moi je voulais vraiment respecter ce travail-là. Et après, c'est vrai que le défi de King Domino, c'est qu'il voulait donc l'implanter dans ce qu'on appelle le mass market, donc c'est-à-dire le jeu, la grande récré, les grandes licences de magasins jeux jouets. Et donc, c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes codes que du jeu de société, on va dire, plus initié. Le premier rush que j'avais fait, première proposition, pardon. C'était encore une fois très empreint de la culture jeu que je connaissais, donc voilà, des jeux plus initiés. Et il m'avait dit non, ça c'est vraiment trop gamer, c'était vraiment le mot qui ressortait. Et du coup, je leur ai dit, bah, je peux vous proposer un style que je le fasse un peu sur un mode 3D, parce que je fais un peu de 3D aussi dessus. J'aurais proposé des pistes, on dit, bah ouais, ça on aime bien, parce qu'effectivement, on a des formes beaucoup plus rondelettes, beaucoup plus cartoonesques. Qui était un peu dans les inspirations Clash Royale, les jeux mobiles et compagnie. Et du coup, oui, ça avait un côté beaucoup plus populaire, entre guillemets, du jeu. Donc, on a commencé à partir là-dessus. Et du coup, je me suis servi des illustrations que j'avais faites en amont en les retranscriptions, ça ne veut rien dire du tout, en les réinterprétant en format 3D. Et du coup, oui, il y avait un vrai travail de simplification des formes, de l'éclairage aussi. Et oui, ça a bien fonctionné. Je pense qu'il a un bon retour. Après, en général, on a toujours les bons retours, mais les gens qui n'aiment pas, en général, se taisent. Voilà, je ne suis pas objective là-dessus. Mais oui, par contre, c'était assez plaisant aussi. Et puis, du coup, ça se passait bien aussi avec les chefs de projet qui travaillaient là-dessus. Donc voilà, et ouais, mon désir c'était vraiment de garder ce côté, je dirais, c'est pas naïf, mais en tout cas attachant du jeu d'origine.
Tu as participé à l'application récente, l'application mobile justement?
Ah oui, alors ça a été vraiment un gros hasard parce que je pense que le fait que je leur propose des assets 3D, eux, ils étaient déjà au courant que l'appli mobile était dans les tiroirs, mais effectivement, ils m'en avaient pas parlé parce que raison évidente de confidentialité. Et ils m'en ont parlé quelques mois plus tard en disant, bah, en fait, on te tient au courant, il y a ça qui sort. Et du coup, ça fait sens, en fait, oui. que ce soit aussi toi qui travaille là-dessus. Donc, à ce moment-là, donc, ils m'ont mis en contact avec les équipes qui développaient le jeu. Et eux, ils avaient déjà travaillé les assets 3D sur le jeu précédent. Donc, en fait, la sortie a été un peu en hybride sur le travail qu'ils avaient déjà accompli sur les châteaux et sur la modélisation qu'ils avaient fait déjà en amont. Et moi, du coup, je leur ai fourni les assets 3D sur lesquels j'avais travaillé. Alors, sachant qu'en plus, moi, je les avais faits à destination de l'illustration. Quand on prévoit des assets pour la 3D, c'est pas la même typologie, c'est pas la même définition qu'ils demandent. Donc, ils s'en étaient servis de base pour les réinterpréter avec les contraintes techniques d'une application mobile pour après. Et oui, du coup, j'avais quand même participé, j'avais été crédité en tant que DA sur le jeu.
Et justement, là, comme on parle de technique, est-ce que tu peux nous parler de ta routine de travail? Comment ça se passe et les processus avec les éditeurs? Donc, je suppose que ces processus, ils sont différents d'un éditeur à l'autre. Mais est-ce que tu as une espèce de trame dont tu peux nous parler
Oui, alors, comme tu l'as dit, c'est très différent. C'est pour ça que j'aime aussi ce travail. C'est que tu vas toujours avoir une relation différente à l'approche que tu mets dans un jeu. La routine, on va dire, commune à tout ça, c'est que moi j'ai déjà un gros travail de veille graphique. Je vais énormément m'inspirer de choses que je vois, mais pas forcément dans le jeu. Ça peut être de l'illustration, de la photo. Là, récemment sur Good Fortune, j'étais partie même sur des pins. Enfin, tout ce qui m'intéresse, tout ce que je trouve beau, tout ce que je trouve poétique et qui résonne avec ce que j'ai envie d'y mettre, j'en fais un énorme dossier, vraiment énorme. Après, j'ai un logiciel que j'utilise, que pas mal d'illustrateurs, je pense, utilisent, qui s'appelle PureRef. C'est une espèce de logiciel, une petite application qui permet de mettre toutes les images d'un coup sur une espèce d'énorme mur. Donc, sur mon deuxième écran, j'ai à peu près toutes mes refs. Et du coup, là, déjà, je vois une tendance qui va sortir, une tendance de couleur, une tendance de forme, de tendance graphique, tout simplement. Et déjà, donc, en regardant ce patchwork-là, je me dis, ça me plaît bien, je vais partir sur tel ou tel ref. Ensuite, ça dépend. Il y a des illustrateurs qui ont vraiment besoin d'un étape par étape. Donc, je leur montre ma veille graphique en disant, voilà, ça, je trouve ça intéressant. Ça, je trouve que ce n'est pas forcément pertinent. Donc, on a un premier échange là-dessus. Et alors, moi, je suis très naze pour les crayonnés. Je déteste le crayon. Je suis gauchère. J'ai traumatisé des traces de crayon sur les cahiers. Donc, c'est vrai que je suis très à l'aise tout de suite avec la couleur. Et quand on me demande un cropart, je fais oui, alors c'est vraiment pour la composition, mais je fais vraiment ça en deux bouts de ficelle. Et je suis plus à l'aise pour faire un test abouti avec la colo, avec tout le trait définitif, plutôt que montrer un cropart parce que j'ai eu des expériences où certains éditeurs ne se projettent pas, en fait. C'est-à-dire, même avec un crayonné, ils ne s'aperçoivent pas du rendu final. Et peut-être que j'ai un côté aussi jusqu'au boutisme où j'ai besoin de moi-même voir à quoi ça pourrait ressembler au final. Donc voilà, cette phase de test graphique, en général, moi, je fais un test très abouti. Et si ça marche, après, en général, ça va assez vite. J'ai très peu connu de cas de figure où j'ai dû refaire des illustrations complètes et que je me trompe de style. C'est quasiment jamais arrivé, je crois. Une fois que le style est validé, en général, ça fonctionne bien. Mais ça peut arriver, hein, que moi je me trompe, qu'il y ait une direction qui ne soit pas la bonne. J'ai eu de la chance aussi que je n'ai pas de retour trop handicapant. Bien sûr, c'est déjà arrivé, hein, ça fait partie du travail. Mais il y a une bonne fluidité à partir du moment où on a validé cet aspect de validation graphique du style. qui fait qu'après, ouais, c'est de la production sur quelques semaines, voire quelques mois pour les jeux les plus gros. Et après, il y a les phases d'ajustement, justement, les petits détails à changer, l'ergonomie, il faut penser à tout ça. Le travail avec le graphiste en interne, préparation des fichiers. Donc ça dépend aussi à quel point l'éditeur a son graphiste. L'éditeur veut entièrement me déléguer le travail. Ça aussi, c'est de la discussion en amont. C'est vrai que moi, je suis une casquette assez large. Donc s'il y a le graphisme aussi à faire, je peux le faire. J'ai toute la suite Adobe que je maîtrise depuis quand même pas mal de temps maintenant. Donc c'est vraiment de la discussion en amont. Et ouais, la phase production, c'est un peu, on va dire, la phase usine. C'est-à-dire, faut tout faire maintenant. C'est peut-être la partie au final la moins intéressante, parce que quand on a tout le process, qu'on découvre, qu'on sait quel style je vais pouvoir apporter, ça c'est hyper stimulant. Et après, quand c'est de la production pure, voilà, c'est vraiment un travail d'artisanat et on produit. Et puis après, bien sûr, il y a la satisfaction de voir le jeu fini, les premiers prototypes, les premières affiches, la com, tout ça, c'est hyper cool. Et ça vient des fois, ouais, plusieurs mois plus tard, voire un an si vraiment l'éditeur s'y est pris en avance. Voilà.
Quels artistes t'inspirent ? Tu parlais de tes inspirations, que tout pouvait t'inspirer ?
Beaucoup. Alors, je suis très nulle pour retenir les noms. C'est-à-dire, des fois, il y a des artistes que je trouve incroyables. J'ai pas mal de... Donc, sur Instagram, d'artistes que je tag. Des fois, je prends juste des captures d'écran d'un truc que je trouve super beau sur le moment. Mais bon, pareil, pour pas nourrir mon fil d'actualité de tout et de rien, c'est juste des captures d'écran. J'ai une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Willy Becker, je crois. Je crois que ça se prononce Becker. Qui est vraiment l'illustratrice que je trouve la plus fantastique. Elle fait des crayonnés, des aquarelles. J'ai même acheté une, pas un original parce que je peux pas, mais je m'étais acheté une reproduction d'une de ses œuvres. En fait, c'est des artistes, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être photographes, qui peuvent être illustrateurs, qui peuvent être céramistes. Il y a mille façons d'exprimer un art et je me nourris vraiment de tout, de tout, de tout.
Justement, moi, j'avais noté une sorte de, je vous rappelais ça, une curiosité sensorielle, en fait, où à plusieurs reprises, tu as parlé de sculpture, de travail sur bois, de photographie, que tu mets d'ailleurs en avant sur ton site aussi. Et on se demandait dans quelle mesure ça va, toi, avoir un impact sur tes illustrations, sur de la texture ou sur, si tu pouvais développer un petit peu là-dessus.
Bah déjà, j'ai fait facilement 15 ans de céramique. Je pense que déjà, de poterie, ça... depuis que je suis gamine, je suis très tactile. Donc, j'ai vraiment un rapport à la matière qui est vraiment particulier. Mon père est menuisier, donc le travail du bois, c'est pareil. Donc, comme tu disais, un rapport tactile très, très important. Et j'ai un rapport à la couleur aussi très développé. C'est-à-dire que j'adore la couleur. Je ne travaillerai jamais en noir et blanc. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est vraiment plus que la couleur, c'est le rapport à la lumière. Et c'est pour ça que j'adore la photo aussi, parce que vraiment, la photographie, par définition, c'est la capture de la lumière et comment on capture la lumière, tout simplement. Donc en fait, que ce soit mes hobbies, mes passions, mon travail, tout résonne l'un dans l'autre. Quand je voyage, je vais faire de la photo parce qu'en fait, je vais capturer des instants, des ambiances. Pour faire de l'illustration d'environnement, c'est hyper important. Et en plus, mes photos, je les travaille comme des illustrations, c'est-à-dire que j'ai un vrai travail d'étalonnage après. Alors, il y a des puristes qui disent, oui, mais en fait, la photo, c'est le cliché pur, et ça s'entend très bien. Mon rapport à la photographie, c'est un rapport d'illustratrice, c'est-à-dire que je vois une ambiance qui me plaît, et je vais la retranscrire de façon à montrer ce qu'elle m'a procuré et ce que j'ai imaginé de l'instant que j'ai photographié à ce moment-là. Par exemple, je suis très, très, très photographie de paysage. Et quand tu as des lumières qui sont incroyables, qui ne sont pas forcément retranscrites dans l'appareil photo, je vais les booster pour montrer voilà ce que j'ai vu moi à travers mon œil d'artiste et que j'ai envie de vous montrer et vous partager. Et au contraire, il y a aussi des photos que je bidouille beaucoup pour apporter une ambiance qui n'était pas au départ, mais je me dis, ça, ce serait tellement beau si ce serait comme ça, ce serait comme ça. Et du coup, voilà, ce travail de photo résonne énormément sur mon travail d'illustratrice. Le rapport à la matière, comme je disais, la céramique, c'est aussi un parallèle évident avec la 3D, parce que du coup, il y a ce côté modelage numérique qui est là, la modélisation, c'est quelque chose qui me calme. donc voilà, le matériel un énorme impact sur du coup la création de numérique, parce que je travaille qu'au numérique quasiment. Malheureusement, le traditionnel, il y a que certains très bons qui arrivent encore à en faire. Je pense à Vincent Dutray qui est incroyable là-dessus. Mais effectivement, pour des facilités, pour des timings, des plannings, des respects, des rendus, c'est sûr que le numérique fait énormément. Et ça reste un art noble dans le sens où, oui, on peut faire avec du numérique ce qu'on est incapable de faire aussi en tradi, notamment justement ce rapport à la lumière, la façon dont on éclaire des illustrations. C'est là-dessus que j'essaye à chaque fois de mettre en avant mes illustrations, c'est comment la lumière va interagir sur l'image. Et à quel point le rapport entre l'ombre, entre la lumière va rendre une illustration belle et parlante.
Et en parlant de ça, est-ce que tu prends en compte la matérialité des jeux, le fait que ça soit sur la table, de comment les joueurs et joueuses vont les avoir en main, vont interagir avec le matériel ?
Alors, ça, c'est des problématiques que je n'ai pas spécialement rencontrées. Y a d'une part l'ergonomie, ça c'est sûr. Donc ça, c'est plus oui sur comment vont être positionnés les éléments graphiques sur tel ou tel support. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un jeu qui a une réflexion, comme tu disais, Elodie, plus matérielle. C'est-à-dire, si par exemple, il y a un jeu qui serait illustré sur des qui serait produit sur des matériaux bruts, pourquoi pas penser à un résultat un peu plus risographique, en fait, qu'il y ait vraiment une résonance entre le style graphique et effectivement le choix du matériau. C'est pas encore arrivé, ce cas de figure-là, ce serait hyper intéressant à explorer. Pareil, il y a des réalités de production, de coûts de production, maintenant où les jeux, comment on peut les faire produire de façon éthique. Donc c'est aussi tout un débat qui est une strate supplémentaire de réflexion. Mais oui, j'aimerais beaucoup faire un jeu où le matériel serait en adéquation avec un style que j'aimerais proposer. Ouais.
Et est-ce que tu peux nous parler de ton actualité ? Est-ce que tu es ici pour présenter Crabe versus Poulpe ?
Oui, tout à fait. Donc, deux actualités. Il y a la nouvelle extension du coup d'Acropolis Panthéon et Crabe versus Poulpe qui est sur le stand de la boîte de jeu. Voilà, deux salles, deux ambiances. Ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Crabe versus Poulpe, c'était un jeu qui a été illustré relativement vite parce que du coup, ils ont eu, je pense que les premiers briefs que j'ai eus, ça devait être octobre, je crois. Donc, peut-être un petit peu avant, j'exagère, j'ai plus le planning exact en tête, mais en tout cas, c'était fin d'année 2025. Donc, ça a été produit relativement vite et là, pareil, ça s'est super bien passé. Donc, avec Jeanne, qui est la graphiste de chez la boîte de jeux, encore une fois, quelqu'un de très humain. Ça se passe toujours bien quand c'est comme ça. Et voilà, on a eu très peu au final de retours dessus. Il y a eu, comme d'habitude, des ajustements par rapport à les mécaniques, donc des choses à changer. Mais celui-là, il a été assez simple. Et pareil, ça fait partie des petits jeux très sympas à illustrer. Alors le thème était Crabe versus Poulpe, donc il n'y avait pas trop d'équivoque.
Moi, j'en suis ravie, hein, parce que j'adore le poulpe en tant que représentation d'animal, en fait. Je trouve que le poulpe dessiné, sculpté, enfin, ce que tu veux, la représentation du poulpe, c'est quelque chose que j'adore. Donc, j'étais
Alors,
très
je suis
contente
ravie
de
parce
voir
que c'est...
un jeu crabe versus poulpe.
Je suis ravie parce qu'à dessiner, c'est un enfer.
J'en ai aucun doute.
Non, alors ça apprend vraiment, ça fait vraiment appel à ton cerveau et la façon dont tu conceptes un volume de tentacules avec le nombre de petites ventouses. Donc oui, et ça fois 8 du coup. C'est un casse-tête à dessiner, mais ça a des résultats très beaux parce qu'effectivement c'est quelque chose de très très graphique. Et en plus, pareil dans cette partie de veille graphique, il y a plein de poulpes différents. Alors après, j'ai pris un peu plus de liberté parce qu'il y en a, c'est plus des calamars que des poulpes, etc. Mais graphiquement, c'était hyper intéressant à faire. Je pense que d'ailleurs, sur le jeu, je pense, mon ressenti à moi, que le travail que j'ai fait sur les poulpes était plus intéressant que sur les crabes, même si pareil, il y a une grande diversité en termes d'espèces de crabes. Ouais, il y avait quelque chose de beaucoup plus sensuel sur le poulpe, sur le côté très organique, forcément. Alors que l'inverse, le crabe, c'est quelque chose de très mécanique. Enfin, la construction d'une carapace de crabe.
Beaucoup plus figé.
Voilà, c'est presque de, on va dire, comme de la mécanique automobile. Hein. C'est vraiment la carrosserie, comment ça, c'est de la biomécanique en fait. Donc c'est clairement quelque chose de beaucoup plus dur à illustrer, enfin dur dans le sens dureté. Alors que le poupe, c'est tout l'inverse. Il y avait presque un côté masculin-féminin un peu intéressant en dualité. Enfin voilà, après, je digresse un peu, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu sur ce jeu-là.
Pour un jeu pour deux joueuses, ça tombe bien. En opposition, c'est parfait.
Ah, puis c'est ce qu'on aime justement savoir, c'est tout le ressenti des illustrateurs et illustratrices qui sont mis dans les jeux. Alors moi, je trouve ça passionnant, en fait.
Oui,
c'est vraiment mon dada, le côté illustration.
Oui.
Et du coup, comprendre comment tu l'as pensé, réfléchi, etc., je trouve ça vraiment passionnant à...
Oui, c'est vrai que ça appartient à chaque illustrateur et il n'y en a pas deux qui ont le même processus, la même approche sur la façon d'illustrer un jeu. C'est vraiment, c'est un côté presque méditatif sur comment tu vas créer une image, en plus de la partie technique, bien sûr, que tu vas apporter. Ça fait partie de ce que je préfère quand un jeu arrive, c'est la réflexion que tu vas y mettre, comment tu le construis. Et après, ça devient de l'artisanat, comme je disais, où c'est vraiment de la production, mais toute cette étape de... On te fait confiance de ton savoir-faire, qui est un savoir-faire très abstrait, au final. C'est vraiment comment toi, tu te sens par rapport à ce projet-là. D'autant plus que moi, j'illustre des jeux très différents. J'ai pas ce côté travail d'auteur, dans le sens où les illustrateurs... Ah, mais c'est toi aussi qui as fait ça, parce que j'ai une palette assez large. Et c'est ce que j'aime. J'ai pas du tout envie de perdre ça, parce que pour plein de raisons. Mais je me bats pour me dire, j'ai plusieurs styles et je suis... Enfin, c'est ma manière de travailler. J'aime travailler comme ça. Plutôt que, mais on reconnaît pas ce que tu fais. Du coup, c'est pas évident de... C'est pas grave. C'est pas grave du tout.
On a remarqué que tu dessinais très peu de personnages.
Oui. Alors ça, c'est pareil, c'est très fâcheux. J'ai toujours adoré l'anatomie. Vraiment, ça m'a toujours fascinée. Mais j'ai clairement des lacunes là-dessus qui sont... pareil, que je travaillerai, parce que de toute façon, l'illustration, c'est le travail d'une vie. On apprend tous les jours. J'ai beau adorer les illustrations de personnages... Je dois passer énormément plus de temps pour faire un personnage que de l'environnement où c'est très intuitif. Mais c'est aussi les particularités de plein de gens. J'ai une amie qui est ultra talentueuse, moi, qui fait de la bande dessinée. Et elle te sort un stylo bic en plein milieu d'une soirée et elle te fait des dingueries absolues juste avec un stylo bic et une feuille blanche. Et elle a vraiment une compréhension parfaite de l'anatomie. Elle a vraiment ce côté vision 3D qui est absolu. Là où moi, encore une fois, je vois les illustrations par la couleur, par la touche et pas par le trait, la ligne fine. Donc c'est aussi fascinant de voir comment, de façon quasi neurologique, en fait, on a une approche du dessin qui diffère d'un illustrateur à l'autre. Et donc les personnages, ça fait partie je pense que de mes lacunes où je n'ai pas la vision 3D parfaite de me dire, s'il y a un crâne, il est... en raccourci arrière, j'aurais du mal. Je pense que j'ai encore aussi besoin de beaucoup de références pour m'inspirer. Et ça, c'est encore une fois, c'est en fonction de comment le cerveau est fait. Et c'est assez fascinant aussi. Ouais.
Alors, quand sera diffusée l'interview, ce sera déjà passé. Mais on a vu qu'il y avait une animation prévue un petit peu particulière sur le salon de Cannes. C'est intitulé « Spectacle d'improvisation dessinée ». Ce sera sur le stand des Jeux au plat.
Tout à fait.
T'en sais, toi, un petit peu plus ou pas du tout ?
Je sais que c'est une improvisation dessinée.
D'accord. Donc, pas plus que nous, quoi.
Non, ça va être un chouette moment. À mon avis, c'est vraiment une espèce de... On verra bien. Je vais avoir la surprise en mettant vous. Je ne sais pas si c'est sous forme de battle, si c'est sous forme de récit, mais je pense que ça va être un moment très sympa en tout cas, où plusieurs illustrateurs vont créer du coup des images sur papier à partir d'un thème qui va nous être donné. Encore une fois, je suis très heureuse d'avoir surprise. C'est comme quand je vais voir un film. Je sais qu'il va m'intéresser, mais je ne lis rien du tout dessus parce que je passe un meilleur moment avec une surprise plutôt que
contre le spoil.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des sujets que tu veux aborder sur des choses à venir dont on n'aurait pas forcément entendu parler ? Alors, moi, j'ai vu passer pour 2027 Astarea.
Oui, tout à fait.
Chez Impatience. Je sais pas si tu peux en parler ou pas.
Alors, je n'ai pas d'infos dessus. Je sais que le jeu, il est déjà fait. Pareil, c'est vraiment ce genre de jeu où tout se passe bien, on te fait confiance de A à Z. Je peux peut-être juste parler du thème. Donc, le thème, c'était sur l'espace. Et vu que j'aime la couleur et que dans l'espace, ce n'est pas forcément là où il y en a le plus, c'était hyper intéressant justement d'apporter un thème coloré dans l'espace où on a toujours cette vision assez froide. Je ne voulais pas rentrer justement dans les codes de l'ASF hyper froide, hyper... Ce n'était pas du tout le but. Et du coup, je me suis plus inspirée des interprétations d'images astronomiques où on voit ces fameuses nébuleuses hyper colorées qui est vraiment de l'interprétation. Pour le coup, ce n'est pas de la vraie couleur. Enfin, c'est comme ça que les images sont traitées. Et je trouvais justement ce processus assez intéressant de se dire il y a quelque chose qu'on a réussi à photographier, on n'a pas la possibilité de retranscrire ça à la justesse de leur beauté. Puis pareil, sur des notions d'échelle pardon, qui sont complètement...
Oui, on n'a pas les codes voilà, en fait, pour les interpréter correctement.
Et du coup, ça reste un travail artistique sur ces clichés-là que je trouvais hyper intéressant. Donc, je suis partie vraiment sur cette démarche-là. Comment tu illustres un saut dans l'hyperespace et donc toute la fantasmagorie qu'on va y mettre là-dessus. Et c'était un travail très doux aussi, ça, très, très chouette. Le jeu est très sympa. Alors, c'est des jeux solo, hein, du coup, les jeux.
On comprend que c'était, il y avait une histoire de dés.
Oui, c'est ça, c'est un jeu de dés solo, très malin, où on a nos petits vaisseaux qui sont symbolisés sur des jetons de poker. Et on va devoir rassembler les vaisseaux par couleur pour arriver à sortir du méchant trou noir qui aspire tout autour de nous.
D'accord. Donc ça, c'est 2027. En tout cas, les informations qu'on a, ce sera un jeu de dés solo donc de Wolfgang Kramer, si c'est j'ai ça. Bien les bonnes informations. C'est ça.
Tu nous as parlé un peu de la modélisation 3D. On a vu aussi que tu travailles beaucoup sur du mapping vidéo.
Oui, oui alors ça, c'est en amont. Donc j'ai fait pas mal de mapping. Alors c'est au sein d'une agence, c'est-à-dire que je suis prestataire. Et que je travaille sur des projets sur lesquels on me fait travailler. C'est un chouette domaine aussi. J'ai notamment travaillé sur un projet qui avait été présenté sur la Fête des Lumières il y a 3 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'était chouette parce que du coup, pareil, ça n'a rien à voir avec le milieu du jeu, ça n'a rien à voir... Avec de l'illustration, si, parce que j'en ai produit. Ce projet-là, en plus, j'étais chef de projet, donc je chapeautais aussi toutes les équipes qui travaillaient dessus. Donc je faisais à la fois de l'animation, du décor, je dirigeais les caisses d'équipe. J'avais vraiment ce côté un peu chef d'orchestre qui était hyper stimulant, mais très fatigant pour le coup, parce que c'est des délais de rendu qui sont courts, il y a beaucoup d'enjeux aussi. Donc ça, c'est des petites fiertés. Je ne suis plus chef de projet sur des projets comme ça aujourd'hui, mais je travaille toujours en tant qu'animatrice et illustratrice sur ces médias-là. Mais oui, pour revenir au côté 3D, c'est assez. Les process sont très chouettes parce que en gros, on travaille comme si on avait en 3D, on appelle ça des UV maps, c'est-à-dire c'est comme si on avait déplié tout le bâtiment à plat et que du coup, on travaille sur cette carte à plat. Pour après remodéliser, on va dire, le volume et que tout fonctionne parfaitement, que tout soit calé correctement. Donc, nous, on n'intervient que sur la partie, enfin, je dis nous, l'agence qui m'emploie, intervient que sur la partie préparation du spectacle, c'est-à-dire vraiment que le visuel du spectacle, la vidéo qu'on va rendre. Et après, il y a beaucoup de types d'intervention de métiers différents, à savoir ceux qui vont gérer l'éclairage, ceux qui vont gérer les projecteurs qui éclairent, le calage, le son. Enfin, après, c'est beaucoup de secteurs qui sont différents. Moi, c'est vraiment...
Juste pour rappeler que le mapping vidéo, c'est les projections sur des bâtiments, en général des beaux bâtiments.
Oui, le mapping vidéo, par essence, c'est vraiment de faire du trompe-l'œil vidéo sur des façades... avec des volumes créés, donc avec où on a l'impression que les façades peuvent se déformer. On joue vraiment avec l'architecture, comment les éléments vont grimper le long de colonnes. Ouais, c'est une espèce de tour de magie en fait avec l'architecture qu'on nous offre.
Merci beaucoup, Pauline. Je vais donc clôturer cette interview. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.